croisée. Chers auditeurs de Forum Opéra et Cobuz, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour ce 20e numéro de Croisée qui n'ira assurément pas sans solo de sensations fortes. Je reçois en effet l'oiseau rare, sincère et authentique, qui s'est le mieux approché peut-être ces dernières années de l'idéal, forcément perdu, du soprano dramatique d'agilité, Alexandrina Pandachanska. Cela ne faisait en tout cas aucun doute lorsque je l'ai entendu pour la première fois en mars 2003 au Théâtre des Champs-Élysées, stonatrilla nécessairement fulminante de l'opéra seria de Gassmann sous la direction de René Jacobs, dont vous êtes devenue l'une des voix fétiches, et on ne se demande pas pourquoi. Précoce et même prodige, comme on peut l'être dans une famille de musiciens, c'est votre mère, Valeria Popova, membre éminente de l'opéra de Sofia qui vous enseigne le chant. On peut vous entendre sur internet interpréter l'air du premier acte de la Traviata à l'âge de 17 ans. Et déjà l'on entend ce qui fera votre singularité, une voix longue, pleine, assez légère encore à l'époque, mais avec cette couleur déjà sombre, d'emblée agile donc, et dramatique. Un tel talent ne reste évidemment pas secret très longtemps et dès 19 ans, votre carrière devient internationale. Le répertoire est une évidence, Lucia, Ophélie, Gilda, la Traviata aussi, avec l'âge du rôle, et puis plus rare, Esclarmonde de Massenet à 22 ans, et une galerie de portraits belcantistes, Rossini avec Hermione et la Donna del Lago, Il Turco in Italia, Il Viaggio a Reims, Semiramide, et puis Donizetti dans Parisina, Roberto Devereux, plus récemment Elisabetta dans Maria Stuarda, et puis aussi Bellini, Verdi. Mais en 2003, une rencontre va quelque peu bouleverser le cours des choses. Prévu pour chanter stonatrilla, c'est-à-dire littéralement trille détonnant, dans l'opéra seria de Gassmann au Théâtre des Champs-Élysées, Anna Caterina Antonacci déclare forfait. Dominique Meyer, qui vous a connu et engagé lorsqu'il dirigeait l'opéra de Lausanne, fait appel à vous. Et là, vous devenez, je l'ai dit, pour René Jacobs, une sorte de double vocale. Vous serez, dans Mozart d'abord, sa donna abbandonata, la rivale, la délaissée, maléfique parfois, c'est la signature de votre timbre sans doute. Vitellia donc, donna Elvira, Elettra, Arminda dans la Finta Giardiniera, mais aussi Fiordiligi, la magicienne Alcina dans Orlando Paladino de Haydn, et aujourd'hui, enfin, l'Agrippina de Handel. Je dis enfin, car lors de la générale de la reprise de la mise en scène de David McVicar au Théâtre des Champs-Élysées en septembre 2003, vous chantiez le rôle-titre alors qu'Antonacci le mimait sur scène. Depuis, on tenait à vous y entendre. Notre patience fut récompensée à Berlin en février 2010, dans la production de Vincent Boussard et René Jacobs, à présent confiée au micro d'Harmonia Mundi. Cette Agrippine, c'est une femme terrible ?
Non, je pense pas qu'elle est terrible. Je l'aime pas beaucoup. Elle est très moderne. Elle sait précisément qu'est-ce qu'elle veut. J'aime beaucoup plus les femmes terribles. Et peut-être je l'aime pas beaucoup parce qu'elle est, elle est tellement, comment dire en français, fourbe,
hypocrite.
Oui, hypocrite et fourbe, c'est en italien.
Oui, perfide.
Perfide, oui, qui. Qu'il ne me donne pas le sens de, d'être terrible comme j'aimerais. Voilà. Mais quand même, c'est un personnage vraiment très fort. Je me souviens d'avoir vu la production de McVicar à Bruxelles et aussi ici à Paris. Et je suis restée absolument étonnée parce que c'était un cas extraordinaire. Tous les chanteurs, commençant par Antonacci et Herman, mis à part, c'était vraiment... je suis restée sans pouvoir parler. Après, je me souviens que je suis allée dans les coulisses et je disais absolument ça. Vous êtes incroyable. C'était une chose qui... Une équipe vraiment grande. Après, quand René a décidé de refaire cette œuvre à Berlin, c'était évident que le rapproche était différente. Il y a beaucoup de choses entre moi et Anna-Catherine qui nous ressemblent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui, de qu'elles nous sont tellement différentes. Et la production était aussi absolument une autre chose. C'était rien comme la production de David Mark Vicar. Et j'ai fait cette Agrippina qui, comme toutes les choses que j'ai fait avec René, j'ai appris beaucoup de ça aussi. Pour moi, le travail avec René, toujours a été une grande école pour moi.
Vous disiez que vous n'aimiez pas ce personnage. Comment on fait pour interpréter un personnage que l'on n'aime pas?
Mais nous ne devons pas aimer. Nous, vous savez, nous, Agrippina, c'était pas facile pour moi de la jouer. Mais c'est notre travail. Je ne sais pas nécessairement de me retrouver dans le personnage ainsi. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de jouer des personnages où je ne me retrouve pas. Comme par exemple Elisabeth dans Roberto Devereux, c'est une des personnages que j'aime plus. Et peut-être Donna Elvira me fait sentir un peu trop ouverte, un peu trop moi,
Oui, à
à
découvert.
découvert. Voilà, je préfère jouer des personnages qui sont jouables.
Oui. Le défi de cette Agrippine, c'est aussi qu'il y a beaucoup de récitatifs comparé à d'autres opéras de Handel. Ce qui est incroyable dans cet enregistrement, c'est la vie dans les récitatifs. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ça?
Mais à la fin, ça c'est une drama per musica. C'est la drame qui nous chantons. C'est beaucoup plus ça qu'une opéra lyrique. Les récitatifs sont beaucoup plus longs que les airs et sont beaucoup plus difficiles. Et je pensais à ça et c'était le travail que nous avons fait avec René et avec Vincent pendant la production de chercher vraiment de penser à cette œuvre comme une
Pièce de théâtre.
pièce du théâtre, enfin, exactement. Et c'était bien aussi que nous avons avant fait la production sur la scène et après nous l'avons enregistrée, que je pense que ça a aidé beaucoup à donner le sens du théâtre. Mais aussi, je dois dire que avec René Jacobs, ça c'est pas difficile à faire parce qu'il est vraiment un homme de théâtre. Il fait ça toujours avec tous les enregistrements, tous les opéras que j'ai fait avec lui. Et s'il y a une chose plus grande que j'ai appris de lui, c'est exactement ça, de donner le son de mots et de penser pas à chanter, mais de jouer avec le texte.
Et comment est-ce qu'on peut faire ça dans des airs qui sont quand même assez virtuoses, garder ce sens du texte malgré la difficulté vocale? Je me souviens, je vous posais à peu près la même question au sujet de Sémiramide, c'est-à-dire comment faire passer le théâtre aussi dans une écriture ornée?
C'est ça le grand question à la fin. Oui, c'est difficile à faire. Il y a des chanteurs qui sont vraiment des plus grands, des divas et d'exemplaires qui j'aime beaucoup, mais qu'ils n'avons pas fait ce travail. Il y a d'autres qui sont absolument ça. Moi, que je suis, pour moi, toujours, Kalas est restée la chanteuse pour qui, première fois, je pensais, oui, ma mère, bien sûr, et puis la Kalas pour laquelle je voudrais devenir chanteuse. Et elle était ça, elle était une actrice qui chantait divinement. Et pour moi, ça, c'est l'idéal, voilà. Combien et comment je réussis de me approcher plus de cet idéal, c'est une autre question, mais c'est ça l'idéal, bien sûr.
Et vous disiez tout à l'heure qu'Agrippine était un personnage fourbe. Il y a plusieurs airs dans Agrippine où elle chante le contraire de ce qu'elle pense.
Ah oui, c'était très difficile. C'est vraiment difficile. Mais c'est une autre chose que j'ai appris ces dernières années de faire aussi avec beaucoup de metteurs en scène parce que beaucoup de fois, surtout dans le théâtre en allemand, l'opéra là, beaucoup de fois c'est c'est l'opposé. Nous devons faire des choses absolument opposées à ce que nous dirons.
Oui.
Oui, c'est difficile, mais ça fait part de la difficulté de métier.
Mais il y a quand même une grande scène où elle se dévoile. C'est Pensieri.
C'est Pensieri. C'est la seule fois. Là, toute cette scène, elle est elle-même. Tout l'autre avant ça et après ça, elle joue d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est challenging.
C'est un défi.
C'est un défi. Oui, ça aussi. Oui.
On va écouter cette scène, cet air, Pensieri voi mi tormentate, et qui a la particularité d'être coupé par quelques lignes de récitatif sec, mm-hmm. et ensuite de s'achever sur l'exposition de l'aria, dans la version évidemment que vous interprétez sous la direction de René Jacobs avec l'Académie für Alte Musik Berlin, enregistrée en 2010 chez Harmonia Mundi.
Thank you.
C'était Pensieri voi mi tormentate, extrait d'Agrippina de Handel avec Alexandrina Pandachanska, mon invitée, et dirigé par René Jacobs chez Harmonia Mundi. Vous le disiez justement, René Jacobs vous a appris beaucoup. Vous vous êtes rencontrés sur l'opéra seria.
Oui, vous savez, j'ai commencé à chanter, comme vous avez dit, très jeune. J'imaginais, je connais le monde de l'opéra dans une autre côté. J'ai travaillé beaucoup en Italie. Je pensais à moi beaucoup plus comme une prima donna. C'est un personnage maintenant que je déteste. Je ne comprends pas plus. Mais j'ai acheté mon vison, le premier vison, quand j'avais 22 ans. Et je pensais que ça fait... partie de l'image de prima donna. Maintenant, cette vision reste seulement
pas,
oui, voilà, prend beaucoup de place. Mais une des choses que j'ai vraiment appris, de pas seulement appris, mais qui m'ont beaucoup changé, c'est la humilité, l'humilité d'être toujours ouvert à apprendre. Je pense que le travail avec René Jacobs m'a fait une personne beaucoup plus humble et ouverte à apprendre des choses. Et je pense que ça a beaucoup donné, j'espère, à la karma. Parce qu'à la fin, c'est ça. Si je crois que nous sommes ici dans la Terre, c'est pour évaluer et évoluer.
Oui.
De se développer, oui, comme personne. Et je sais que ça peut sonner, je ne sais pas, mais de René, c'était pas seulement la musique, mais le comme il travaille, comme il est là pour apprendre, pour lui-même, mm-hmm, pour apprendre, pour donner à les autres de apprendre, si les autres veulent. Mmh. Accepte de apprendre, parce que c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Il y a des fois qu'il est il devient très peu, maintenant tu as pas fait cette appoggiatura, et je vois, je pense très bien que ça peut être très ennuyant aussi,
oui,
mais à la fin, le résultat, à la fin, je me suis toujours dit, je sais pourquoi je le fais.
Et c'est lui qui vous a fait découvrir le répertoire baroque ?
Oui, mais quand même, je crois pas d'appartient vraiment à cette.
Oui.
J'ai fait, et maintenant encore, j'ai fait un voyage dans le répertoire baroque, mais je crois pas d'être une chanteuse baroque. À la fin, je ne sais pas qu'est-ce que je suis, parce que j'ai plus de 60 rôles dans mon répertoire. Et je suis encore curieuse d'apprendre des choses nouvelles. Pourquoi pas connaître les répertoires allemands? Salomé, c'est une des choses prochaines que je dois faire. Et je suis vraiment curieuse de faire ça aussi. Jana Tchèque, le répertoire russe que j'adore, que j'ai juste fait à Bolchoï. Il y a encore beaucoup de faire à apprendre et de découvrir.
Apprendre et découvrir justement avec le répertoire baroque, mais aussi le répertoire romantique. Vous avez chanté beaucoup de raretés. Il faut peut-être un certain sens du sacrifice
Oui.
pour accepter de chanter des œuvres une seule fois,
Oui.
parfois pour un seul
Il y a
concert.
beaucoup de rôles que j'ai chanté seulement une fois. Beaucoup, beaucoup. Mais quand j'ouvre la nouvelle partition, j'ai toujours, oh Dieu, encore une fois, une chose no nouvelle. Mais à la fin, ça, comme j'ai dit, ça m'a donné beaucoup. J'ai appris beaucoup de ça. Je pouvais, bien sûr, je pouvais faire. Il y a beaucoup de chanteurs magnifiques qui font Desdemona Mimi, je ne sais pas, Traviata, et encore deux, trois rôles pour toute la vie, et ça va aussi. Mais je pense que je serais très ennuyée.
Oui, ça vous ennuierait de...
Oui, de si je devais faire ça.
Par exemple, vous avez chanté Cléopâtre dans le Giulio Cesare de Sartorio.
Oui, non, 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 j'ai chanté Giulio Cesare, j'ai
Pardon,
pas
oui.
chanté Cléopâtre, j'ai chanté une fois seulement Cléopâtre de Giulio Cesare di Handel, seulement une fois, j'ai chanté une fois Giulio Cesare di Sartorio. Il y a beaucoup, j'ai chanté maintenant dans ses Sostri Nitocri, et je crois pas que je la chante, c'est pas une œuvre qui se fait beaucoup, mais si je dois dire, il y a beaucoup de rôles que j'ai fait seulement une fois.
Comment est-ce que vous accueillez ce genre de proposition? Quand on vous a dit, est-ce que vous voudriez chanter Nitocri dans ces Sostri de Terradellas? Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce compositeur.
Moi non plus.
Comment est-ce que...
La première chose, c'était que je voudrais voir la partition et si m'intéresse comme personnage, comme si vocalement ça va bien pour ma voix. Sont les premières deux choses, oui. Et pour ces Sostri, je dois dire aussi que aujourd'hui, il y a tellement peu d'enregistrements. Quand il y a une proposition de faire un enregistrement, c'est toujours intéressant.
C'est le rôle d'une mère,
Oui,
d'une femme
oui,
bafouée qui veut
oui.
se venger et
Oui.
qui le dit haut et fort dans des airs très virtuoses. Alors, ce fameux Terradellas, c'est un compositeur espagnol qui a été très actif en Italie, mais qui a aussi été pendant quelques saisons à Londres, après Handel évidemment. Rousseau le cite dans sa lettre sur la musique française, aux côtés de Porpora et Jomelli, comme un exemple de ceux qui ont mis en musique les livrets de Métastase. Ici, c'est son dernier opéra, c'est Sostri, sur un livret de Zeno et Pariati. Et ce compositeur est redécouvert par le chef espagnol Juan Bautista Otero avec son orchestre Le Real Compañía Opera de Cámara et qui publie donc cet enregistrement dont nous écoutons un extrait. L'aria di furore e di vendetta talor se perde i fili.
Vendetta poi mi fa.
C'était un extrait de Sesostri de Teladelas dans un enregistrement publié par le label de l'ensemble Real Compañía Opera de Camera de Barcelone. Vous avez beaucoup chanté Mozart avec René Jacobs notamment. Beaucoup disent que c'est un baume, un médicament pour la voix.
Oui, oui, c'est médicament et c'est. Je pense que j'ai fait un peu ces 10 ans. En pensant qu'est-ce que je faisais avant ça, les dernières 10 ans, c'était comme une deposit dans la banque, une épargne. Voilà. Et maintenant que j'ai 41 ans, je pense que je peux commencer à prendre les intérêts. Parce que je faisais Louisa Miller et Roberto Devereux, Due Foscari à 29-30 ans, et maintenant je recommence de là.
Et dans Mozart, vous avez incarné, surtout, je le disais tout à l'heure, les femmes abandonnées, délaissées, les rivales. En tout cas, c'est dans ces rôles-là que vous voyez René Jacobs, des rôles même maléfiques, comme Vitellia, par exemple, qui ressemble un peu, d'une certaine manière, à Agrippine.
Ah, beaucoup, elle ressemble beaucoup, oui. S'il y a un personnage deux personnages qui se ressemblent de mon répertoire, absolument, sont Vitellia et Agrippina. Seulement que Vitellia, à la fin, elle connaît le catharsis et elle devient une autre.
Mozart, c'est une écriture des Lumières, plutôt classique, et les personnages que vous avez incarnés sont plutôt baroques, démesurés. Comment on trouve sa place, ou est-ce qu'on ne la trouve pas au milieu d'une équipe? Par exemple, Elettra dans Idoménée est toujours à part.
Oh oui, elle est tout le temps à part. Elle chante presque jamais avec les autres. Tout le temps, elle est absolument abandonnée, seule et tragique. J'aime beaucoup ce personnage parce que c'est tellement tragique. J'ai beaucoup pleuré pendant des spectacles d'Electra parce que vraiment, elle me touche.
Comment mais on fait pour garder la discipline vocale?
Vocale, oui. Mais ça c'est aussi une chose que j'ai appris beaucoup les dernières 10 ans, en chantant Mozart et le répertoire baroque. Parce que là, c'est pas possible de le faire autrement. Si on garde pas le contrôle de le fiato, de respiration, de production du son. Vous savez, avant ça, j'ai jamais pensé, avant de commencer à chanter avec Jacobs et beaucoup de Mozart, j'ai pas pensé à la beauté du son. Mm. J'ai pensé à donner le caractère, de délivrer le personnage, vous savez, j'ai eu autre priorité.
Oui.
Et maintenant, je pense beaucoup plus à la beauté du son. Pour moi, le défi plus grand est de pas sacrifier la beauté du son pour donner un accent tragique et vice-versa et autrement. Et c'est ça mon objet maintenant. Je voudrais réussir à faire, d'être capable de donner, de faire des accents dramatiques, mais toujours de rester, de respecter la ligne et la beauté du son.
Est-ce que la sonorité des orchestres baroques change aussi quelque chose dans votre propre esthétique sonore quand vous chantez?
Oui, peut-être ça aussi, ça... Oui, peut-être c'est possible que ça aussi m'a fait penser à ça. Parce que c'est beaucoup plus un dialogue, un travail entre... parce qu'avec les orchestres de l'opéra, quand tu chantes Traviata, c'est pas ça. L'orchestre est un accompagnateur qui, tu chantes, elle fait papa, voilà. Et quand je travaille avec Acamus, avec Freiburger, avec cet ensemble qui sont faits de musiciens qui sont là parce qu'ils l'aiment. Il aime exactement ce qu'il fait. Mm. Ils ne sont pas là pour accompagner, pour travailler, pour
gagner de l'argent.
Voilà. Ouais. Et ce rapport m'a aussi fait beaucoup plus penser à que je ne suis pas seule, que ce n'est pas moi seule qui chante et qui fait l'air. C'est un ensemble de beaucoup plus de personnes, d'oboïstes, un violon, et que nous tous ensemble ferons une chose ensemble. Voilà.
C'est un dialogue cataclysmique qu'on s'apprête à écouter avec la dernière scène des lettres. Osmania, o furie, o disperata elettra, ça c'est le récitatif accompagné, et puis l'air d'Oreste d'Ajace dans la version de René Jacobs, toujours avec le Freiburger Baroque Orchestra, enregistré en 2008 et paru chez Harmonia Mundi. Oh, C'était un extrait d'Idoménée de Mozart avec Alexandrina Pandachanska, le Freiburger Baroque Orchestra, dirigé par René Jacobs, chez Harmonia Mundi. Vous avez une voix très longue, avec des possibilités dramatiques. Quand on est très jeune, comme vous l'étiez quand vous avez commencé, est-ce que ça n'est pas un peu dangereux ?
Ah oui, bien sûr, ça pouvait être absolument pas seulement dangereux, ça... C'est un miracle à la fin et que je suis arrivée. Je chante déjà 24 ans, 25, seront l'année prochaine. Et dans ces 25 ans, j'ai vu beaucoup de collègues qui sont venus, sont partis. Et bien sûr que c'était pas facile de survivre. Mmh. Mais à la fin, comme je dis, j'ai eu beaucoup de chance. Je ne pense pas que je me suis trompée avec le répertoire. Ça, c'est la première chose. Aussi, si j'ai eu la sensation d'aller trop loin, je me suis toujours retirée.
Oui.
J'ai presque jamais risqué avec le répertoire. Et...
Ça n'était pas risqué, par exemple, de chanter Esclarmonde à 22 ans ?
Non. Non, parce que c'est un rôle qui peut être fait seulement là. Seulement à cet âge-là.
Il faut avoir l'insouciance de...
Et puis, ce n'est pas une opéra qui est de répertoire. J'ai chanté Esclarmonde 8 fois, exactement 8 fois. Je n'ai pas fait Esclarmonde, je n'ai pas fait 10 productions d'Esclarmonde. Ça pouvait être dangereux. Mais aussi, je suis très, très heureuse de l'avoir fait parce que après, ça ne pouvait pas être possible. Ce n'est pas faisable, cette rôle. Sinon par une voix qui était la mienne à 22 ans. Ou quelqu'un d'autre qui a cette... ça doit être vraiment une voix jeune, qui est capable d'avec beaucoup d'agilité et long. Maintenant, je ne pouvais pas la faire, bien sûr. Ce n'est pas possible. Je l'ai fait et je l'ai laissé là.
Et comment on fait les allers-retours entre Mozart et par exemple Rossini, Donizetti, des rôles aussi lourds que Elisabetta, que Hermione, qui sont des rôles quand même qui demandent une grande endurance, peut-être plus que Mozart.
Bon. Oui, mais c'est exactement ça. Je cherche je voudrais pas chanter seulement les rôles dramatiques. Maintenant que je commence à chanter Salomé, je veux essayer avant tout, et puis je veux voir comment je me sens, si ça va bien pour moi. Et maintenant, je n'accepterai pas de faire Salomé avant de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la première fois. Alors, c'est maintenant une proposition de Salomé m'arrive pour 2016. Je dirais, vous devez attendre parce que je veux voir comment ça se passe. Et puis, l'année prochaine, je chante aussi beaucoup de Mozart. Puis, peut-être, je peux faire une autre opéra très dramatique. Mais c'est dangereux si quelqu'un commence à abuser dans le répertoire et dans la voix. Voilà.
Et quand on vient du bel canto comme vous, comment est-ce qu'on aborde une partition comme Salomé qui est aux antipodes?
Je suis curieuse. Je suis très, vraiment curieuse. La lecture de cette partition est différente. Les moyens avec lesquels j'apprends ces ordres sont différents. Pour moi, c'est la première fois. Je ne suis pas une spécialiste, mais je n'étais pas une spécialiste de la musique baroque avant ça non plus. C'est la curiosité, vous savez. Je pense que quand je perdrai la curiosité d'apprendre des choses nouvelles, alors ça, je penserai à un autre métier. Je veux voir qu'est-ce que ça va donner. Je voudrais faire beaucoup Janáček aussi, comme je vous disais. Une fois, ça m'est arrivé, mais je devais décider si je veux faire Yenoufa à Naples avec Jurovski, avec qui j'ai juste travaillé Vladimir, ou de faire à Santa Fe Hermione de Rossini. Et dans ce moment-là, c'était dans 2000, je préférais de faire Hermione. Maintenant, si je dois choisir, je choisirai de faire Yenoufa parce que je suis curieuse. Maintenant, je connais beaucoup plus Rossini. Et je veux aller ailleurs.
Est-ce que ça vous rassure pour cette Salomé de travailler avec un metteur en scène, Vincent Boussard, que vous connaissez bien, puisque vous avez déjà fait Don Giovanni avec lui et évidemment cette Agrippina.
Absolument, bien sûr. Oui, bien sûr que ça me rassure. Nous avons fait deux productions ensemble, on se connaît bien. Et c'est important de faire un rôle comme Salomé avec quelqu'un à qui je peux trust.
À faire confiance.
Avoir confiance, oui, voilà.
Il y a des metteurs en scène qui ont des univers très différents aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure. Là, vous venez de chanter avec Dmitri Tcherniakov au Bolshoï. Comment on rentre dans les univers de ces différents metteurs en scène?
Oh mon Dieu, c'est
parce que parfois on n'est même pas d'accord avec ce que...
Non, j'adore Mitya, je l'adore, mais je lui dis, avec toi, je ne veux pas faire Salomé. Oui, peut-être un jour, quand si Salomé, va bien, et si je suis absolument sûre de chaque note et de tout ce que je veux faire avec elle... Peut-être là, je peux la faire avec lui. Mais il est un peu sadique, quoi. Il pense pas... Il a autre objectif. Je serai avec lui beaucoup plus prudente de faire une début d'un rôle que je n'ai pas fait encore et qui est vraiment fatigant et difficile à chanter. Oui. Parce qu'il ne pense pas à ça.
C'est une autre Salomé qu'on va écouter, celle de Massenet, dans l'air « Il est doux, il est bon », extrait d'Hérodiade, que vous avez enregistré pour votre premier récital solo, qui est paru en 96. C'est avec l'Orchestre symphonique de Sofia et dirigé par Mikhail Angelov. Un extrait d'Hérodiade de Massenet avec Alexandrina Pandachanska qui interprétait le rôle de Salomé dans un récital paru en 96 sous étiquette Capriccio. Qu'est-ce qui a évolué dans le monde de l'opéra ces 25 dernières années depuis que vous le fréquentez?
Qu'est-ce qu'il a gagné?
Qu'est-ce qu'il a gagné ou qu'est-ce qu'il a perdu?
Alors, je pense qu'il y a plus perdu qu'il gagné. Il a toujours eu beaucoup d'ego dans notre métier. Mais maintenant, je crois que les personnes avec le plus fort ego sont devenues le maître,
en scène.
Et ce n'est pas nécessairement une chose positive. C'est très positif qu'aujourd'hui, les chanteurs sont beaucoup plus acteurs qu'une fois. Ça, c'est vraiment positif. Oui. Mais je pense que personne ne doit oublier que nous sommes tous là pour faire une chose ensemble, que c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas la diva ou il grande maestro à qui personne ne peut dire rien ou le maître qui veut qui sait quoi. Maintenant, j'ai travaillé avec Vladimir Yurovsky et j'ai beaucoup pensé à ça. Aujourd'hui, il y a très peu de maestri, de chefs d'orchestre qui veulent de suivre
oui.
Les chanteurs. Et à la fin, c'est beaucoup de fois parce qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et je pensais à les mettre d'une fois, comme Séraphine. J'ai eu la chance de travailler avec une de ces grandes maîtres qui est Nello Santi. Aujourd'hui, il y a aussi. Et Vladimir est absolument une de ces chefs qui sont là pour, vous savez, pour faire musique ensemble.
Oui.
Ils ne sont pas là pour être le chef, le boss. Il n'y a pas d'ego là. Là, nous sommes tout ensemble pour faire la musique et je me sens très riche de cette expérience.
On va se quitter en rappelant qu'évidemment, il y a chez Harmonia Mundi l'enregistrement d'Agrippine hein, qui vient de sortir, dirigé donc par René Jacobs avec une superbe distribution. Alexandrina Poniatowska dans le rôle-titre, mais aussi Bejun Mehta, Oton et Sunhae Im qui interprète Poppea, Marcos Fink qui est Claudio. Jennifer Rivera qui interprète Nerone avec l'Académie für Alte Musik Berlin. Et puis on vous retrouve en février au Théâtre an der Wien, toujours sous la direction de René Jacobs, pour Télémaco de Gluck. Et là vous interprétez une nouvelle magicienne, enchanteresse et mangeuse d'hommes, Circé, toujours dangereuse. Et puis vous serez du 5 mai au 5 juin au Théâtre de Saint-Gall pour votre première Salomé de Richard Strauss dans une mise en scène de Vincent Boussard et sous la direction de Modestas Pitrenas. nous écoutons un air d'Agrippina Ogni Vento avec l'Académie für Alte Musik Berlin, René Jacobs et Alexandrina Pandachanska. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Rispondere!